C'est pas rien, Johnson & Johnson, donc le fabricant de poudre pour bébé qui a caché au public, délibérément caché au public pendant des décennies, le fait que son talc, hein, contenait de l'amiante. Moi, j'en reviens pas là. Docteur Christiane Laberge, médecin de famille, à mon secours. Bonjour, Christiane.
Bonjour.
Sérieusement, là, je veux dire, partout il y avait ça, partout, dans toutes les maisons, il y avait ça, ça traînait partout, dans la pharmacie, sur le bord du bain, on en a mis à nos enfants, je trouve ça dégueulasse.
Bien, d'autant plus que cet été, quand ils ont eu l'action à 4 milliards, ils disaient que notre talc n'a jamais contenu d'amiante, etc. C'est pas vrai, etc. Donc, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Tu sais, s'il y a des dossiers qui disent oui, ça en contenait, puis dans les années subséquentes, ça en contenait pas parce qu'ils ont filtré ou, je sais pas, épuré. Ils savaient dans les années 70, oui, que ça n'ait pas été dit, mais que ça a été nié cet été 2018. Je me dis, wow, là, tu sais, qui ment et qui dit la vérité, là? Et c'est là-dessus où, et les actions qui ont été prises, tu te rappelles, c'était pour des cancers de l'ovaire chez des madames qui avaient utilisé pendant une quarantaine d'années dans l'aine et sur la vulve la petite poudre en question pour se donner une bonne petite odeur.
Ben oui.
Alors, c'était un peu ça l'idée, là, tu sais. Sauf que ça fait longtemps qu'on dit que c'est pas utile.
Ah non, dis-moi pas ça, là.
Regarde, Bernard, je me rappelle, là, écoute, j'étais résidente en médecine de famille en 76 à Maisonneuve, puis on disait déjà à cette époque-là, quand les parents, d'abord, on n'avait pas à l'hôpital, nulle part, puis on disait aux parents, c'est pas nécessaire, le bébé, sa face est à côté de ses fesses parce qu'il n'y a pas une grande distance. Fait que quand on envoie ça, il y a toujours de la poudre qui va respirer.
Ben oui, mais cette poudre-là était, dans notre esprit, elle était complètement inoffensive, cette poudre-là. Voyons donc, Christiane,
oui, mais
elle sentait bon, on s'en mettait partout, Christophe Colomb.
C'est pour ça qu'on disait aux parents déjà à l'époque de ne pas en mettre, puis de mettre plutôt une pâte de zinc, d'oxyde de zinc, qui était plus efficace.
Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que est-ce que vous doutiez? Est-ce que vous aviez déjà des doutes sur le contenu de cette poudre-là?
On avait des doutes, pas sur le contenu comme tel, mais on se disait, ça n'a pas d'affaire dans un poumon de bébé, ça n'a pas d'affaire dans un nez de bébé, ça n'a pas d'affaire dans la bouche de bébé, tu as un problème de fesses, mets tes affaires qui restent ses fesses, mais qui ne vont pas partout ailleurs. Alors, c'est pour ça qu'on a commencé, dès ces années-là, à dire aux parents, en tout cas, ça a peut-être commencé avant, Mac, là, mais moi, j'étais jeune étudiante, puis on dit aux parents, non, mettez pas ça, là, tu sais.
Mais pourquoi c'est devenu si populaire, la poudre pour bébé Johnson? C'est quoi? C'était l'odeur? Ça sentait bon? Puis c'était la texture? Oui, c'est vrai que ça sentait
bébé. De bébé.
Oui.
Donc, ça te rappelait tes souvenirs de quand tu poudrais ton bébé puis que tu étais poudré toi-même. Deuxièmement, les gens ont encore horreur des odeurs corporelles, même si ce sont des odeurs normales après lavage. Puis les gens, on utilise plein de parfums, puis on utilise plein de chasse-odeurs. Puis, tu sais, actuellement, Bernard, on est dans la vogue là où on branche des affaires électriquement pour nous donner des odeurs qui sont acceptables, alors qu'on sait qu'il y a plein de gens qui réagissent à ces produits-là de façon très, très, très négative et qu'on devrait, en général, ne pas les utiliser. Mais ça se vend, mon homme, ça n'a pas de bon sens.
Mais je sais, mais il y en a d'ailleurs, il y a certaines de ces odeurs-là qui sont... Ah, ça sent.
Ça ne correspond pas à tous les goûts d'une part, mais d'autre part, chez des gens, c'est toxique. Chez certaines personnes sensibles, c'est toxique. Les gens, les parfums dans les hôpitaux, là, on nous recommande, ça fait longtemps, ça fait au moins 10 ans qu'ils nous disent de ne pas porter de parfum ou d'odeur particulière parce qu'il y a des patients, il y a 10% des gens qui réagissent au parfum, ça leur donne des crises d'asthme.
Je peux-tu te demander, la poudre, juste pour en revenir au cancer des ovaires, là, puis la condamnation à presque 5 milliards de dommages et intérêts là, à la suite d'une poursuite par 22 femmes aux États-Unis, c'était quoi le processus? Qu'est-ce qui se passait?
La prétention, c'est que la poudre pouvait avoir une pénétrance au niveau de la muqueuse par contiguïté. Si tu en mets à l'intérieur des lèvres, bien, c'est sûr que ça ne va pas rester sur les lèvres. Ça peut rentrer un peu dans la vascularisation périphérique. Donc, ça peut théoriquement donner des cancers des ovaires. Mais tu sais, il faut que tu en aies mis pendant tous les jours de ta vie, pendant 40 ans. Là. On ne parle pas de quelqu'un qui va en mettre un été puis qui a arrêté après. Là. T'sais. Le cause à effet, d'ailleurs, au niveau du cancer de l'ovaire, il a été, à un moment donné, pour la poursuite de 417 millions, je pense, elle avait été virée de bord par le tribunal d'appel.
Parce qu'il n'y avait pas assez de preuves de cause à effet. Oui, c'est ça. Mais finalement, ils ont été condamnés en juillet à 5
millions. Ils ont été condamnés, mais il n'y a rien qui dit qu'ils vont payer. C'est-à-dire qu'ils vont aller en appel probablement encore parce que ça fait des allers-retours depuis des années. Si par contre, tu as prouvé qu'il y avait de l'amiante dans ta poudre, ben il n'y a pas d'autre condition qu'une femme s'assoie sur de l'amiante. De telle sorte que si ta source amiante et que tu as des particules d'amiante dans ton cancer de l'ovaire, oh! Là, ça serait cause à effet.
Ah oui, je comprends.
Plus probable.
Alors, sur l'amiante, juste pour être bien clair, c'est le grand groupe de presse Reuters. C'est les enquêteurs, les journalistes enquêteurs de Reuters qui ont épluché des tonnes d'informations qui avaient été cachées par Johnson & Johnson. Mm-hmm. Et puis, ils en viennent à la conclusion que Johnson & Johnson, au moins entre 1971 et le début des années 2000, savait qu'il commercialisait du talc qui contenait de l'amiante dans la poudre. Alors, puis Reuters, moi, j'en parlerai pas si c'était pas aussi solide puis aussi crédible, tu sais, comme information, là.
Ouais. Alors, il va y avoir des contre-expertises et des spécialistes qui vont aller dans les doses qui sont présentes dans l'environnement normal de quelqu'un autour. Parce que aussi, tu sais, les substances toxiques, on peut boire de l'arsenic sans le savoir, puis on peut boire du fluor sans le savoir parce qu'il y en a dans l'eau naturelle, etc., etc. Donc, toute cette analyse-là, oui, ça peut, puis ils savaient qu'il y en avait, puis tout ça, mais quelle quantité en dessous de la dose. Tous ces jeux de toxico-là. Puis l'autre chose, c'est que les normes acceptables dans les années 70 pour plusieurs produits toxiques ne sont plus les mêmes normes aujourd'hui. Donc, il va falloir qu'il y ait des comparaisons. Ça va être une bataille de spécialistes.
Oui.
J'en suis certaine qu'ils vont s'amuser là-dedans.
Oui, mais tu sais, on dit souvent le marché a raison. Là, je vais te dire une affaire. À la Bourse de New York, là, le titre chutait de presque 10 % de Johnson & Johnson. Visiblement, les investisseurs jugent très sérieusement, ils pensent que cette information-là est très, très crédible pour qu'ils vendent autant d'actions de Johnson, ce qui fait chuter l'action. Il me reste 2 minutes. Oui. Je veux juste faire un petit détour par un reportage qui a été diffusé sur les ondes de CBC. Et qui raconte l'histoire d'un cabinet de chirurgien esthétique, un médecin donc qui fait de la chirurgie esthétique et qui avait mis des caméras un peu partout dans son cabinet. Mm-hmm. Et là, je me posais la question, est-ce que vous avez le droit, les médecins, de mettre des caméras dans les cabinets de médecins? Parce que la raison donnée par ce médecin-là, c'était pour se protéger d'éventuelles poursuites. Il voulait tourner les interventions esthétique, par exemple les augmentations mammaires, il voulait tourner ça parce qu'il voulait être capable de faire la démonstration qu'il avait agi correctement. Si jamais une patiente l'accusait, mettons, d'agression sexuelle ou de gestes de nature sexuelle, il voulait être capable de prouver qu'il n'avait rien fait de mal pour pouvoir donc se défendre devant d'éventuelles poursuites. Sauf qu'évidemment, les patientes n'étaient pas au courant qu'elles étaient tournées.
C'est fou en arrivant, là, parce qu'effectivement, si occasionnellement. Écoute, t'écoutes District 31 où ils te disent dès que tu rentres dans la salle, vous avez des caméras là, vous avez des caméras là, vous allez être filmé, blablabla. Bla. Nous, c'est la même chose. S'il y a des unités d'enseignement, par exemple, en psychiatrie, où on dit, bon, mais monsieur, on va vous filmer dans une fin de réanalyser les interventions que l'étudiant fait avec vous. Le patient signe comme quoi il a bien compris, on lui lit le texte, on lui lit les conséquences, on lui dit que ça sera détruit dès que l'entrevue sera terminée, etc., etc.
Donc, la caméra est permise à des fins de recherche, mettons, en autant que le patient donne son consentement écrit.
Consentement écrit, expliqué, validé, qu'est-ce que vous avez compris de ça, puis théoriquement, c'est détruit après, c'est des fins de recherche ou d'analyse. Mais dans des bureaux comme ça, jamais on ne met dans la relation thérapeutique. Et si jamais il y en avait, comme je te dis, pour fin d'étude ou quelque chose de précis, il faudrait le consentement. Puis à la limite, là, il faudrait presque qu'il y ait une pancarte sur le mur qui dise « Vous êtes filmé en tout temps ».
Oui.
Puis ça, c'est jamais au Québec. Et si tu le faisais, tu te ramasserais au conseil de discipline, ça serait pas bien.
Conseil de discipline du Collège des médecins.
Oui.
Très bien. D'ailleurs, il y a un médecin qui a été sanctionné il y a quelques années de ça, un pneumologue là, mm-hmm. qui tournait effectivement ses interventions là.
Ouais.
Il filmait des patientes.
Ouais.
Et puis, il a été radié ou... oui, c'est ça, il a été radié, il a dû cesser sa pratique. OK,
mais doc... Il y en a que c'est aussi des gestes sexuels non... n'est-ce pas? On a eu des pédophiles aussi parmi notre gang. Fait que c'est,
ouais.
c'est sûr qu'il y avait eu ça aussi. Mais okay. ça, non, ça marche pas.
Très bien. Doc Laberge, merci.
Bonne fin de semaine. Bye.
Toi aussi. Bye. Loïc Tassé qui s'amène.